Radio Monaco.
Le club.
Bonjour Karine Joly.
Bonjour.
Championne du monde de parachutisme, chute libre artistique, avec votre partenaire Greg Crozier notamment. Vous avez décroché il y a quelques jours aux États-Unis un nouveau record du monde. Les images sont époustouflantes. Karine, c'était quoi encore cette folie?
Alors, c'était une opportunité complètement unique. Il y a les Américains qui ont décidé de réunir les meilleurs parachutistes mondiaux pour établir un nouveau record de nuit. Et donc, on s'est retrouvés à 42 parachutistes dans le ciel d'Eloy, en Arizona, à côté de Phoenix. Et on avait des gros pyrotechniques au pied, des LED sur nos combinaisons. Et puis, on a fait ce pari fou de se retrouver dans le noir et puis de s'accrocher tous ensemble pour former une formation à 42. Et on a réussi.
Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait. Vous vous êtes encore rajouté des difficultés avec la pyrotechnie, le fait de sauter de nuit.
Tout à fait. En fait, donc c'est très très rare de pouvoir sauter de nuit parce qu'évidemment, ça comporte déjà une lourde logistique. Il faut faire venir des pilotes et faire tourner des avions de nuit, donc en dehors des horaires de travail habituels. Et puis, surtout, ça comporte beaucoup de risques supplémentaires, en ce sens qu'il faut que la zone de posée soit éclairée pour que les parachutistes puissent se poser en ayant une notion de distance avec le sol. Mais on imagine bien que si quelqu'un n'arrivait pas à rejoindre cette zone éclairée, il faudrait qu'il se pose dans le noir. Et forcément, du coup, ça rend quasiment impossible de savoir quand est-ce qu'il faut actionner ses commandes de frein pour pouvoir arriver en douceur au sol. Donc là, c'est rapidement une jambe cassée ou un accident plus grave. Et en plus, là, on a rajouté la pyrotechnie, qui était vraiment en fait un système très précautionneux, puisqu'on imagine bien que si jamais le pyrotechnique se déclenche dans l'avion pendant la montée, c'est rapidement une catastrophe puisqu'on utilise aussi de l'oxygène pour monter un petit peu plus haut que d'habitude.
Qu'est-ce qu'on ressent, Karine, avant, pendant et après un tel saut?
Alors avant, le tout premier saut, je pense que tout le monde ressent une peur en fait, une peur de... On est obligé de faire confiance à l'équipe. On se dit ok, il faut bien que je respecte toutes les séquences d'éclairage de ma combinaison, allumer les boîtiers récepteurs pour les pyrotechniques au bon moment, faire attention à après au bouton déclencheur, au détonateur qu'on a au poignet, parce qu'il ne faut pas que ça s'accroche en fait quand on bouge dans l'avion et que ça le déclenche prématurément. Donc en fait, on a ça déjà nous, de se dire ok, l'équipe me fait confiance, il faut vraiment que je respecte bien toutes ces séquences et qu'il n'y ait pas un faux mouvement. Et puis, il faut faire confiance aux autres en se disant il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit un peu adrénaliné ou pareil, qui dit tiens, j'ai oublié d'allumer ma caméra, et en allant l'allumer, que ça accroche le bouton et que ça le déclenche dans l'avion. Il faut que tout se passe bien, on est conscient de ça, il faut que tout s'aligne. Et aussi le fait de ok, j'espère qu'on va être bien largué et qu'on va tous pouvoir revenir sur la zone éclairée. Et puis quand on se pose, c'est la libération totale. On se dit, waouh, ça s'est bien passé. C'était complètement fou ce qu'on a eu comme spectacle sous les yeux. Et c'est une expérience extraterrestre.
Et on a tout de suite envie de recommencer.
Ah oui, oui. Ah c'est complètement addictif. Ça, c'est... c'est fou. Oui, oui, on a envie de recommencer. Après, c'est vrai qu'il y a la fatigue aussi qui vient se mêler à tout ça. Parce que déjà, l'adrénaline, ça fatigue quand elle redescend un peu. Et puis, on est aussi sur un rythme de nuit, puisqu'on voulait l'obscurité totale pour avoir le rendu qu'on voulait. Et donc, il faut se tenir éveillé, en plus avec les décalages horaires et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a tous vraiment donné tout ce qu'on avait pour réaliser tout ça.
C'est vrai que forcément dans votre discipline, c'est artistique également, et il y a un côté très esthétique de ces images où on se croirait presque dans un film de science-fiction. C'est magnifique. Est-ce que, là c'était un saut de nuit, mais lorsque vous faites des sauts de jour, est-ce que on a le temps de profiter un petit peu de la beauté des paysages, ou finalement on est tellement concentré sur les aspects techniques, on va dire?
Alors, ça dépend. Effectivement, lorsqu'on fait des sauts de démonstration, avec Greg par exemple, on va être concentré sur la partie chute libre, sur le programme qu'on doit exécuter, ou des sauts de compétition, et on va pas vraiment profiter du paysage. Souvent, les avions, pour monter en altitude, ont des vitres assez panoramiques, donc là, on peut profiter pendant toute la montée d'avion. Mais après, une fois qu'on est en chute libre, on est concentré sur le programme. Et puis, c'est une fois que la voile s'ouvre qu'on va pouvoir profiter un petit peu du paysage et de tout ce qui s'offre autour de nous. Mais d'autres sauts un petit peu plus, qui demandent un petit peu moins d'attention de notre part, quand c'est plus des sauts plaisir, par exemple, avec des amis, là, on a vraiment, en fait, cette double conscience de ce qu'on est en train de réaliser en chute libre, et puis de regarder le paysage autour en se disant, waouh, le décor est dingue. Donc, c'est vraiment chouette.
Ça dure combien de temps, en général, un saut? Ça dépend d'où on saute, mais ça a duré combien de temps?
Alors, souvent, on saute. Alors, d'habitude, on monte à 4000 mètres et on ouvre notre voile à 1000 mètres. Donc, on a 3000 mètres de chute libre et ensuite 1000 mètres un peu d'observation sous voile, on va dire. Donc, pour ce record, pour avoir plus de chances de se retrouver tous en l'air et de former la figure qu'on voulait, on est monté un petit peu plus haut. C'est pour ça qu'on utilise de l'oxygène. À partir de 3800 mètres, on respire tous de l'oxygène avec un petit tuyau qui nous distribue ça dans l'avion. On est monté jusqu'à 5400 mètres, 17000 pieds. Mmh. Et donc, on avait un petit peu de temps supplémentaire pour se retrouver. On approche la minute de chute libre.
Alors, vous avez un palmarès impressionnant. Est-ce que vous arrivez encore à tenir la comptabilité du nombre de titres et de records et du nombre de sauts aussi?
Oui, alors on maintient ça un peu dans un carnet. Alors c'est vrai que de tête, je vais peut-être oublier 2-3 records qui ne soient pas des records mondiaux. Je sais que là, je viens d'établir mon 9e record mondial, donc ça c'est vraiment chouette. Après, on a plein de records européens, français en plus. Mais oui, et le nombre de sauts, je tiens en compteur, oui, j'approche les 7400 sauts là. Ah oui. Donc, et ça continue de grimper. Mais oui, c'est bien d'avoir une notion, j'aime bien garder une notion.
Bah, c'est impressionnant, félicitations à vous. Vous êtes aux États-Unis, je le disais, vous habitez dans la région, du côté de Nice toujours ?
Oui, alors on a un pied à terre à Nice, c'est vrai qu'on est souvent en déplacement pour notre travail, donc souvent on donne des cours en soufflerie, on se déplace d'une soufflerie à l'autre, on a une vie un petit peu de nomade comme ça, un petit peu internationale, enfin très internationale, ouais. On est souvent à l'étranger également, mais on a un pied à terre qui est le coup de cœur, notre petit appartement à Nice, à côté de Villefranche-sur-Mer, et c'est vraiment toujours un plaisir de revenir dans la région, surtout que moi j'ai travaillé en fait à Monaco pendant 7 ans, avant de devenir parachutiste professionnel à temps plein. Et du coup, c'est toujours, on a un point d'attache affectif énorme.